La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en son Fils Jésus, notre frère et notre sauveur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ici dans ce lieu, à l'Oratoire du Louvre, pour ce culte dominical. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez ce matin par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes en communion avec vous, même si nous sommes loin géographiquement. Nous sommes ici ce matin ensemble pour de nouveau une fête puisqu'il s'agit du baptême d'un tout petit. Ce matin, nous allons partager ce moment important pour la famille qui est ici. Et nous sommes très, très heureux d'accueillir toute la famille et les amis qui sont là pour ce petit enfant dont je tais encore le prénom. Il faut ménager un peu de suspense. Alors, je vous invite à prier ensemble pour entrer dans ce temps de culte. Et c'est David Cassan ce matin qui nous accompagne à l'orgue. Je vous invite à la prière. Éternel, toi qui nous réunis ce matin, donne-nous la joie, celle qui nous donne une nouvelle naissance, celle de la foi. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble le premier répond qui se trouve dans le début du psautier français, comme tout le reste de la liturgie d'ailleurs. Je vous invite à vous lever. Nous louons Dieu avec le psaume de David, du chef de chœur sur la guittite, psaume de David. Seigneur Adonai, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui te rends plus éclatant que le ciel, par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur Adonai, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Après le psaume 8, je vous invite à chanter ensemble le psaume 33 dans les psautiers français et nous chanterons les 5 strophes.
Thank you.
La loi du Seigneur peut se résumer en ce commandement, le commandement qui conduit notre route, qui conduit la route de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans le Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Que cette parole nous accompagne et nous guide chaque jour de nos vies. Nous nous présentons devant Dieu avec la confiance des enfants pour leur Père. Et nous prions avec Søren Kierkegaard. Dans ce journal, il inscrit cette prière. Père aux cieux, comme un père envoie son enfant dans le monde, ainsi tu as mis l'homme sur la terre. Il est séparé de toi comme par un monde. Il ne te voit pas de ses yeux. Il n'entend ta voix de ses oreilles terrestres. Le voilà ici-bas et la route est devant lui. Si longue, à l'heure inerte du découragement qui ne veut pas attendre. Si malaisée, à l'instant pénible de l'impatience qui lui refuse tout répit. Donne alors à l'enfant du courage dans ce vaste monde, du courage quand tant de fausses routes semblent s'offrir à lui et que la bonne est si difficile à connaître, du courage quand l'angoisse et le chagrin semblent trouver des alliés dans la fureur perverse des éléments, dans l'horreur des événements, dans la misère déprimante des hommes. Donne-lui alors du courage pour se souvenir et croire que de même qu'un père envoie son enfant dans le monde, tu as mis de même l'homme sur la terre. Dieu miséricordieux, comme l'enfant prodigue, en retrouvant le chemin du retour, a trouvé tout changé, jusqu'à l'esprit de son frère, mais non son père dont l'amour l'accueillit à sa rentrée par un festin. Dont le cœur paternel lui rendit, à lui l'enfant perdu, l'assurance aisée du convive. Quand de même un homme retourne à toi, donne-lui alors de l'assurance sur le chemin de la conversion, qu'il ait au moins le front de se croire attendu. Miséricordieux, qui s'inquiète et craint sa perdition. Amen. Dieu nous promet sa grâce, il la renouvelle sans cesse sur nous, comme il l'a promise jadis à Jérusalem par l'entremise du prophète Ésaïe. Et c'est une image maternelle que prend le prophète pour parler de cet amour infini de Dieu pour nous. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre joie, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez les bonheurs, la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur la hanche et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vous, vous reprendrez de la vigueur, comme l'herbe des champs. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Que cette parole d'encouragement nous fasse vivre. Je vous invite à vous asseoir et je vais maintenant accueillir la famille du petit baptisé qui vient de se réveiller, tout frais de son sommeil. Fabiola et Vincent, avec votre fille Léonore, vous avez demandé que votre fils reçoive le baptême. Ça va? Il faut refaire connaissance parce que, bon, on s'est vu un peu, mais il faut quand même qu'ils reconnaissent. Alors, avec les parrains et marraines, peut-être, venez. Vous pouvez venir ici et nous sommes très heureux, et l'Église avec nous, d'accueillir ce souhait pour cet enfant qui va recevoir le baptême. Alors, je vais commencer par vous inviter à lire la confession de foi que vous avez choisie de partager avec l'Assemblée ce matin.
Il s'agit d'une confession de foi de Martin Luther King à Oslo le 10 décembre 1964. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure.
Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un feu de, un fétu de paille et ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que, au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leurs esprits, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque... Qu'est-ce que tu fais là ? Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier dans sa vigne et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen.
Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à chanter ensemble le spontané de la confession de foi dans les recueils. Alors, chers amis, Fabiola, Vincent, voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit le Seigneur. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est pas mal, ça, hein? Je crois qu'il est tout à fait d'accord avec cette promesse. Votre enfant va être baptisé au nom du Père, qui lui donne le souffle de vie. Il va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, qui l'appelle à son service. Il va être baptisé au nom du Saint-Esprit, qui lui donnera la foi, l'espérance et l'amour. C'est en tout cas notre souhait le plus cher. Il y a de l'eau ici, qui est de l'eau tout à fait ordinaire. Et oui, c'est l'eau que tu bois à la maison, la même. Et pourtant, avec la parole de Dieu, cette eau devient eau du sacrement du baptême. Elle devient eau d'une nouvelle naissance, eau d'une vie avec le Seigneur, dans la foi du Christ. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que c'est vrai pour nos enfants, même quand ils sont petits et qu'ils ne le savent pas encore eux-mêmes. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. J'allais vous inviter à vous lever, mais vous êtes restés debout parce que vous avez sans doute envie tous d'être témoins de ce baptême. Et nous allons maintenant baptiser ce petit enfant. Dieu nous l'a promis. Nous sommes à lui. Il nous connaît chacun par notre nom. Fabiola, Vincent, quel prénom avez-vous choisi pour votre fils ?
Andrea.
Alors Andrea, on va y aller. Voilà. Ça va aller ? Alors, tu me fais confiance ?
Oh oui.
Alors, vous le retournez, ça va aller ?
Donc je le baisse.
Vous le baissez, s'il vous plaît. Ah. Andrea, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. André. Alors, il est déjà en train de lire la Bible. Donc... Andrea, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Très bien. Tu viens ? Oui. C'est vraiment extraordinaire quand même. Hein. On a des ministères incroyables quand même. On a beaucoup de chance. Alors, je vais maintenant vous inviter... Alors, je ne sais plus à quoi, d'ailleurs, j'en perds mon latin, même si je ne le parle pas. Je vais vous inviter à prononcer le beau poème que vous avez écrit pour cette fête, ces vœux que vous avez écrits pour Andrea. Je vous invite à les lire. Alors, vous avez le micro ici.
À l'aube d'une ère nouvelle, la clairvoyance est de mise dans nos geôles où s'étreignent tourments et suspicions. Mais la peur s'atrophie et comme une lame qu'on aiguise, flamboie d'étincelles sous les heurts des passions.
Et la lumière fut, enivrant de grâce, Andrea, tu oscilles les ténèbres et les inondes d'éclat. Et par-delà tes sourires scintillants de joie, notre amour fortifié embrasse ta voix. Ce jour où tu reçois le baptême, nous magnifions l'espérance de voir en toi s'épanouir les merveilles du cœur.
Tes angoisses et tes chimères en nous, tu trouveras l'essence de les combattre et les enclore dans un écrin de douceur. À ce monde enfiélé, rongé par l'égoïsme, tu apportes empathie et tolérance, mon fils.
Malgré les obscurs desseins de nos pères, la foi tu garderas, et confiance, petit frère. Partageant les mots et les hymnes ralliés sous la même bannière, nous t'accueillons en ces pierres dans le berceau de Dieu, où notre communauté digne et révérencieuse sur la terre adresse humblement ses prières au royaume des cieux. Amen.
Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter les parrains et marraines à prononcer les vœux qu'ils ont préparés pour leur petit filleul.
Mon cher Andrea, lorsque tes parents m'ont annoncé que j'avais été choisie pour être ta marraine, j'ai sauté de joie. Quel bonheur de pouvoir t'épauler tout au long de ta vie. Merci à tes parents pour cette confiance qui m'honore énormément. Cela fait plus de 24 ans que je connais ta mère et 17 ans ton père, à peu près. Et grâce à toi, c'est officiel maintenant, on fait partie de la même famille. C'est cool ça. Je ne pensais pas être ta marraine un jour, mais ils m'ont offert ce privilège. Comme je suis fière. Être ta marraine, c'est t'aiguiller dans tes futurs choix, être présente dans tes moments de joie, comme dans tes moments de tristesse, je serai toujours là pour toi. Je t'aime très fort.
Tu entends, Andrea ?
Oui, mais là, il est occupé par autre chose, là.
Voilà, peut-être, certains veulent s'asseoir, hein, peut-être que vous êtes un peu là d'être debout. Donc, n'hésitez pas à vous asseoir si vous le souhaitez.
Andrea, alors que nous nous occupions de ta sœur avec Élodie, la grande nouvelle est arrivée ce 9 juillet de l'année dernière. Après 40 étages montés et descendus dans les couloirs de l'hôpital, tes parents avaient l'immense joie de t'accueillir et de partager leur bonheur avec nous. Et quelques mois plus tard, ils nous faisaient l'honneur, à Hélène et moi, de nous demander de devenir ta marraine et ton parrain. J'ai tout de suite accepté, heureux de faire un petit peu partie de ta famille désormais, mais tout en étant conscient de la responsabilité qui serait la mienne et de l'engagement que cela représente. On ne sait jamais vraiment de quoi est fait demain et les surprises que nous réserve l'avenir. mais je peux t'assurer que je serai là pour t'épauler et t'écouter dans tous les moments de ta vie, les plus heureux et aussi les moins faciles. J'aimerais aussi te transmettre ma curiosité sur le monde qui nous entoure, notamment ma passion de l'histoire et des sciences, mais aussi les Vikings, le brassage de la bière et la musique qui fait du bruit. Quand tu auras des questions, je tâcherai de trouver les mots pour y répondre du mieux possible, mais je ne te garantis pas d'avoir réponse à tout. J'ai hâte en tous les cas de partager de nombreux moments avec toi, ta sœur et tes parents. D'ici là, je ne suis pas sûr que tu te souviendras vraiment de cette journée, mais sache qu'elle restera gravée dans ma mémoire. Nos vies sont maintenant liées, et je suis fier d'être ici, à tes côtés, en ce lieu magnifique et entouré de gens qui t'aiment.
Amen. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, voici le petit Andrea. Voilà, il est ici chez lui. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses proches, le soutien de votre prière. Et oui, et il est déjà en train de prêcher. Je pense qu'on va en faire un pasteur, à mon avis. Si jamais un jour il venait à se séparer de l'Église du Seigneur, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Ce sera ainsi, pour lui, le signe de l'amour inconditionnel de Dieu. Et il saura qu'il a une famille qu'il aime de la même façon ici. Voilà, Andrea. Il vous découvre tous, il est très très sérieux. Hein. Je vous invite à chanter notre joie avec le 204, le cantique 204, les strophes 1 et 2. Voilà. Ça va ?
Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons écouter ensemble le texte que nous avons choisi ensemble avec la famille d'Andrea pour ce jour. dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 16 à 24. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau. Voilà ce que le Christ dit à ses disciples. Alors quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Qu'est-ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez ? Et je m'en vais vers le Père ?» Il disait donc, « Que dit-il là, encore un peu de temps ? Nous ne savons de quoi il parle. » Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau. Votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous invite à chanter le cantique 202, les strophes 1 et 2, dans le Louange et Prière. Prions ensemble. Et nous prions avec ce texte de Dietrich Bonhoeffer. Dans sa lettre du 27 juin 1944, Résistance et soumission, il écrit : Un jour viendra où des hommes seront appelés de nouveau à prononcer la parole de Dieu, de telle façon que le monde en sera transformé et renouvelé. Ce sera un langage nouveau, peut-être tout à fait non religieux, mais libérateur et rédempteur, comme celui du Christ. Les hommes en seront épouvantés et néanmoins vaincu par son pouvoir. Ce sera le langage d'une justice et d'une vérité nouvelle qui annoncera la réconciliation de Dieu avec les hommes et l'approche de son royaume. Que ce souhait de Dietrich Bonhoeffer soit aussi le nôtre chaque fois que nous prononçons les paroles du Seigneur dans ce monde. Amen. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la détresse, tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde. L'image de la femme accouchée, qui retrouve instantanément le sourire quand elle serre cette nouvelle vie sur son sein, est particulièrement bien choisie pour évoquer deux instants successifs qui marque un changement radical d'affect. Ce micron de la langue grecque, ce encore un peu que Jean reprend inlassablement au fil de son évangile, dans le chapitre 12, le 13 ou le 14, est directement inspiré de la prophétie finale du prophète Ésaïe que nous avons lue en guise de parole de grâce il y a quelques instants. Avant d'être en travail, elle a accouché. Avant que les douleurs ne lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Là encore, le « encore un peu » de Jésus contient en lui le temps particulier qui marque le passage de la mort à la résurrection. Ce temps nous parle du paradoxe de la joie qui naît pourtant de la détresse. Dans la pratique, il n'est pas si facile de passer de la détresse à la joie. Et les Écritures nous semblent parfois bien abstraites de ce point de vue. Même quand elles prennent appui sur des expériences de vie bien réelles, comme celle de l'accouchement. La détresse laisse des traces. Et il n'est pas si simple de l'oublier pour laisser place à la joie. Après les traumatismes, qu'ils soient individuels ou collectifs, les corps se souviennent et gardent pour longtemps les cicatrices qui en résultent. Qu'il s'agisse du corps social ou du corps d'un individu, la marque de la blessure passée ne s'estompe pas si facilement. Et quand on croit avoir assimilé le passé qui fait souffrir, on s'aperçoit souvent qu'il réapparaît sous des formes étonnantes, comme un code sorti du passé qui donnerait la clé du présent. Inconscient individuel ou inconscient collectif garde la mémoire des détresses passées et leur enfouissement même contribue à donner sa forme au présent. Alors, puisqu'il semble qu'on ne puisse effacer les strates successives qui constituent notre histoire, sans les voir ressurgir anarchiquement ou insidieusement dans notre présent, quelle place donner à la mémoire et à l'oubli? Dans son œuvre « La mémoire, l'histoire, l'oubli », Paul Ricoeur ne donne pas de solution pour arbitrer sur la place dévolue à la mémoire et à l'oubli, mais il décrit la complexité des questions mémorielles. Paul Ricoeur distingue ainsi trois abus de la mémoire. En effet, il est des mémoires empêchées, perdues ou bloquées. Elles se heurtent à des censures, identifiables ou non, collectives ou individuelles. Il est aussi des mémoires manipulées par un pouvoir en quête de légitimité. certains récits, par la sélection même des événements qu'ils retiennent ou non, légitiment ainsi une certaine histoire, personnelle ou collective. Et puis il y a la mémoire commandée, celle qui impose au présent des références qui n'ont a priori rien à voir avec lui. Par exemple, imposer de chanter l'hymne national avant une activité sportive, ou obliger ses enfants à donner le nom d'un ancêtre dont ils ne savent rien d'autre, peut-être parfois une mémoire commandée. Tous ces abus participent d'un geste de mémoire, mais aussi d'oubli, et le choix de l'un et de l'autre est imposé de l'extérieur, par des proches, par le regard d'une communauté posée sur des événements passés et sur le présent. Il est souvent bien difficile de savoir pourquoi l'on se sent obligé de retenir tel événement comme référence pour sa vie propre, plutôt que tel autre, tant cela pose de problèmes affectifs. On a beaucoup parlé de devoir de mémoire, au niveau national et international, comme si chaque individu était pleinement responsable d'un passé auquel il n'avait pas participé. Faire de la mémoire un devoir vise la reconnaissance des exactions passées pour empêcher leur réitération. Mais cela ne permet pourtant pas toujours à tous de faire sien les événements du passé. Et l'attraction d'une jeune génération pour des idéologies de haine, aujourd'hui encore dans des pays qui ont fait de la mémoire de leurs traumatismes les plus cruels un devoir, montre qu'on ne peut décréter quels événements mémoriels feront racine pour les générations suivantes. Paul Ricoeur explique que pour que la mémoire passe de l'individuel au collectif, il faut que les témoignages passent par les proches, ces gens qui comptent pour nous et pour qui nous comptons, ceux qui nous ont vus naître et qui peuvent être porteurs d'un récit qui nous concerne, ou parfois d'autres proches qui affectivement nous sont liés. Leur mémoire est liée à la nôtre affectivement, et alors nous sommes prêts à partager leur mémoire et à la faire nôtre. Choisir de faire mémoire de ceux qui ont vécu avant nous implique qu'ils fassent partie de notre culture intime, de notre langage, de notre imaginaire. C'est choisir les liens qui feront verbe, qui feront langage pour notre présent et notre avenir. Dimanche dernier, nous faisions mémoire commune de la vie de 63 enfants juifs qui pourtant ne représentent peut-être plus rien dans l'imaginaire de beaucoup d'autres dans notre pays et ne constituent donc pas pour eux une référence éthique et politique susceptible de guider leurs choix idéologiques. Pour moi, en revanche, aller savoir pourquoi, ils sont comme ma famille et appellent ma responsabilité comme mes propres enfants, alors que je n'étais pas née à l'époque des événements. Voilà pourquoi la mémoire ne se décrète pas, mais elle se construit comme un récit autour d'un témoignage qui peut tisser des liens affectifs. Un texte comme l'Évangile de Jean relève de choix mémoriels qui répondent à des impératifs du présent de ses auteurs. Ces choix n'étaient peut-être pas des abus mémoriels au moment où ils ont été écrits, mais à coup sûr, ils relèvent d'une stratégie, individuelle ou collective, qui répondent à l'idée qu'ils se faisaient de la vie et de la mort de leur figure tutélaire, Jésus de Nazareth, dans leur propre vie. Il a fallu que des témoins racontent leur histoire de proche en proche, et sans doute de génération en génération, pour qu'une communauté entière parvienne à se rattacher à des événements passés, lointains historiquement et géographiquement. L'Évangile de Jean n'est écrit ni à Jérusalem, ni au temps de Jésus. Et il a fallu que ces témoins choisissent de quel événement ils voulaient faire mémoire et en vue de quoi. Sinon, pourquoi oublier la description du visage de Jésus ? Pourquoi ne pas parler de sa vie d'avant son baptême ? Pourquoi ne pas expliquer ses amours, ses problèmes d'intendance, ses défaillances et ses plaisirs ? L'évangile de Jean est une anamnèse, une mémoire qui cherche un dépassement du réel par un récit entièrement orienté vers une fin glorieuse. Peu importe les éléments réels oubliés de la vie de Jésus, ce n'est pas la vie de Jésus que l'évangile raconte. C'est la foi, c'est sa foi, et là où elle l'a menée. C'est plutôt une histoire de la foi qu'une biographie réaliste. Le traumatisme à dépasser ici, c'est la mort du juste, de l'ami, du maître, du sauveur. C'est la mort d'un espoir aussi, pour tout un peuple, en diaspora, loin de chez lui. C'est l'obligation de transformer le présent, si l'on ne veut pas renoncer à croire en l'avenir. D'autant plus que cette foi placée dans celui qui a été crucifié a occasionné l'exclusion de la communauté de son groupe social d'origine, le judaïsme historique, qui n'a pas reconnu Jésus et qui, maintenant qu'il est mort, détient une preuve imparable du bien fondé de son refus. Il est mort et rien ni personne, pas même Dieu, n'a pu le sauver. Preuve pour eux qu'il n'était qu'un homme comme les autres, mais pas le Christ. C'est donc aussi l'histoire d'une rupture. Alors pour résister à ce qui pourrait apparaître comme un immense ratage, comme une erreur collective, la communauté johannique va se souvenir de ce maître de sagesse en faisant mémoire par le récit de la venue, non pas d'un homme dans le monde, mais du Verbe de Dieu. Et ce Verbe sera la lumière du monde et le monde sera en définitive, par un retournement qui tient dans ce micron, dans ce encore un peu, celui qui s'est trompé, celui qui s'aveugle et ne peut pas ou ne veut pas reconnaître la parole de Dieu alors même qu'elle s'incarne et qu'elle naît en son sein. Encore un peu et vous ne me verrez plus, encore un peu et vous me verrez. Ce Verbe créateur de Dieu, cet esprit qui est promis aux disciples quand Jésus ne sera plus avec eux, est celui qui leur permet de choisir ce dont ils se souviendront et ce qu'ils oublieront. Et l'Évangile fait dire à Jésus, « En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. » Jésus laisse la place. Il n'est plus question d'adresser des prières à l'homme qui s'est éteint, mais en souvenir de lui, c'est à Dieu qu'il faut adresser toute prière. Se souvenir du Christ comme d'un détour pour mieux retourner à Dieu, oublier l'attachement à l'homme, à l'ami, ne pas le diviniser, surtout pas, pour trouver la voie parfaite de la foi en un Dieu qui était son Dieu et qui est notre Dieu. Voici ni plus ni moins ce que l'Évangile de Jean nous propose entre mémoire et oubli. Dans ce geste mémoriel qui rompt avec la tristesse de la perte, pour y trouver la joie de la confiance, l'Évangile de Jean nous apprend où est la véritable lumière apportée par Jésus de Nazareth. Dans la perte, une nouvelle naissance nous est offerte. L'oubli permet cette conversion du temps de l'épreuve en temps de joie. Une sorte de pardon accordé à l'histoire, que la mise en récit opère sur la dureté du réel. En passant du réel de la perte au récit sublimé de la perte, en passant de l'existence à la représentation de l'existence, ceux qui se croyaient dépossédés de leur raison d'être sont réhabilités, porteurs d'une mémoire qu'ils ont vocation à faire vivre autrement et pour laquelle ils ne sont pas coupables, mais témoins. Les disciples de Jésus, qui racontent leur évangile, sont suscités à nouveau par cette mise en récit. Ils sont ressuscités. Oublier peut donc être une grâce, quand on sait ce qu'on choisit d'oublier. Quand on prend le parti d'élaguer l'arbre généalogique d'un passé transmis par les proches et dont nous faisons notre affaire en choisissant sur quelle branche nous allons construire notre cabane. Nous avons baptisé Andrea aujourd'hui, Il est né dans une histoire familiale. Il est arrivé parmi ceux qui sont ses proches et que ses parents avaient déjà choisi comme proches, qu'ils soient de la même famille ou non. Ce tissu de relations qui fait l'histoire familiale d'Andrea a été transformé par l'arrivée de ce petit garçon. Et lui-même le transformera encore, consciemment ou inconsciemment, tout au long de sa vie. On lui fera le récit de ses ancêtres, on oubliera certaines choses, on fera mémoire d'autres. Et lui choisira ce qu'il veut garder de ce verbe fait chair en lui. Pour que sa joie soit parfaite, il faudra qu'il oublie ce qui pourrait le charger d'un poids du passé qui pourrait l'empêcher d'être libre. La foi de ses parents est sans doute ce qui lui permettra de faire ce tri, cette balance dans sa vie, entre ce qu'il gardera en mémoire et ce qu'il oubliera, parce que c'est cette foi qui lui permettra de se savoir aimer toujours. Andrea, quelle que soit ton histoire, quel que soit le récit que tu feras de la vie, de ta propre vie dans ce monde, quel que soit ton évangile, que ta joie soit parfaite. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 297, les strophes 1, 2 et 3. 297. Voilà, je vous invite à entendre quelques annonces. Et c'est Juliette, notre trésorière, qui va partager avec nous les annonces de cette semaine. Merci Juliette.
Bien, chers frères et sœurs, chère famille d'Andrea, bonjour. Merci à chacun et chacune de votre présence ici à l'Oratoire du Louvre, ou devant votre écran à distance. Le temps des annonces, c'est le temps de vous communiquer toutes les activités que nous vous programmons pour vous, pour que nous soyons de nouveau ensemble. Et pour être parfaitement informé, la meilleure façon de l'être, c'est d'être abonné à la lettre hebdomadaire que nous vous envoyons chaque semaine, souvent le vendredi. Et donc, vous savez tout. Pour être abonné, il faut consulter le site internet de l'Oratoire du Louvre, oratoiredulouvre.fr, et tout en bas de votre écran, vous pouvez indiquer votre adresse électronique et être abonné aux nouvelles de l'Oratoire. Alors, cette semaine, dans les nouvelles de l'Oratoire, il y a énormément d'activités qui vous sont proposées et qui nous emmènent jusqu'au 3 avril. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais je voudrais simplement que vous puissiez retenir quelques-unes d'entre elles. La première que je peux vous proposer, c'est le samedi 12 mars. Le samedi 12 mars, le matin, vous pouvez venir chanter avec le chœur pour préparer les cantiques qui seront donc chantés le lendemain au culte. Et l'après-midi se trouve le concert spirituel mensuel à 16h, ici même à l'Oratoire du Louvre. Voilà la première possibilité de retenir une date dans vos agendas. Une autre date que je souhaite communiquer, c'est le 27 mars. Qu'est-ce que passe-t-il le 27 mars ? Le 27 mars, nous allons prier ensemble avec les femmes du monde entier. Alors normalement, cet événement se déroule au début du mois de mars, mais nous avons différé cet événement pour être en communion. Nous n'avons pas pu organiser ça au début du mois, mais sincèrement, restons ensemble et prions ensemble pour les femmes du monde entier dimanche 27 mars. Le thème choisi cette année par les femmes d'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord est « Un avenir à espérer ».
Merci de retenir le 27 mars. Et puis la dernière date que je voulais vous proposer de retenir aujourd'hui, c'est le dimanche 3 avril pour les membres de l'Apérole, qui est notre association cultuelle qui permet à l'oratoire d'ouvrir ses portes toute l'année. Donc une assemblée générale sera organisée le dimanche 3 avril. Voilà. Merci donc de votre attention. Merci à Béatrice pour le culte d'aujourd'hui et à David Casson de nous avoir accompagnés à l'orgue. Au temps de l'annonce suit le temps de l'offrande. Donc vous pouvez remettre votre offrande en espèces aux aumôniers qui viendront jusqu'à vous, mais aussi vous pouvez les remettre par carte bancaire sans contact grâce à un petit panier que je vais vous proposer. Vous faites signe de votre main et je viens jusqu'à vous. Et puis, si encore vous voulez donner davantage et faire un don qui fait l'objet d'un reçu fiscal, eh bien, au comptoir de la librairie se trouve un terminal de paiement qui vous accueillera pour donc pouvoir goûter à la joie de donner. Je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir.
Merci. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions pour Andrea et pour ses proches. Que le souvenir de ce jour de fête, habite son avenir et lui donne l'élan et l'espérance nécessaires à l'audace de la foi. Éternel, toi qui ne te souviens plus de nos fautes passées, apprends-nous le pardon qui restaure les vies, le dépassement qui permet d'avancer confiant vers l'avenir. Et quand le passé pèse sans produire de fruits, délivre-nous par ton amour. Éternel, toi pour qui un jour vaut 1000 ans, rappelle-nous sans cesse que les gestes que nous posons sur cette terre nous survivront peut-être. Apprends-nous à les mesurer à l'étalon de l'éternité. Éternel, fais-nous porteurs de mémoire pour tous ceux qu'on oublie et qui meurent sur la terre de n'être pas considérés, reconnus, aimés, légitimés. Soigne notre myopie égocentrique et ouvre-nous aux autres. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous voilà au terme de cette halte ce matin dans ce lieu. Mais la fête continue pour Andrea et sa famille, pour tous ses proches et pour nous aussi dans notre cœur d'avoir partagé ce moment si beau. Allez, allez et faites mémoire de ce qui peut faire vivre l'homme ici aujourd'hui dans notre monde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen.
Thank you.